Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et Jean-Pierre Foultier est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Nous y voilà, la dernière semaine de cette série des chroniques culturelles de l'Europe que vous avez consacrée à l'opéra. Et en rappelant que vous avez travaillé à une exposition intitulée L'Europe de l'opéra, qui est en cours de réalisation toujours à la Maison de l'Europe en Limousin.
Oui, et que l'on pourra voir dans quelques semaines, je l'espère.
On en reparlera dans notre agenda, évidemment.
On pourra retrouver dans cette exposition, sur un ensemble de panneaux, les grands noms et grands moments de l'opéra dont je parle à nos auditeurs depuis quelques semaines. Cette dernière chronique fera un peu l'état des lieux de la création dite lyrique européenne au XXe siècle et en ce début de XXIe. Mais après le tonnerre des opéras wagnériens ou le désespoir amoureux des héros de Verdi ou de Puccini, je vous propose un peu de légèreté et quoi de mieux pour se mettre en train qu'un French cancan.
Il nous manque juste l'image, c'est dommage.
Ce French cancan endiablé, c'est le galop final de l'opéra bouffe de Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers, donné en 1858. Ceux de nos auditeurs qui ont entendu la première chronique de cette série se souviennent que j'y ai développé l'intrigue passablement sombre de l'Orfeo, cet opéra de Monteverdi, de 1607, Sébastien, considéré comme le premier opéra européen. On retrouve également cette histoire tragique de descente aux enfers dans Orphée et Eurydice de Gluck en 1762. Chez Offenbach, la légende mythologique est tournée en dérision. Orphée et son épouse Eurydice ne peuvent pas se supporter, et si Orphée consent à descendre aux enfers pour aller y chercher sa femme, c'est sous la pression d'une opinion publique personnifiée et pressante, et avec l'aide de Papa Piter, vous avez compris, Jupiter. Nous sommes dans la bouffonnerie la plus totale, comme nous le serons quelques années plus tard avec La Belle Hélène, une autre parodie par Offenbach et ses librettistes Meillac et Halévy de la mythologie grecque. Je ne vais pas vous chanter, mais vous dire quelques mots de la célèbre Marche des Rois. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Ou bien, je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas.
C'est tellement bien.
Des paroles d'une haute portée philosophique, comme vous pouvez le constater. Ces opéras bouffes, aussi nommés parfois opérettes, ont eu un immense succès, même si certains, Zola entre autres, appréciaient peu que l'on se moque d'une antiquité considérée, à juste titre, comme le fondement de la civilisation européenne.
Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais on peut donc rire à l'opéra.
Oui, même si ce n'est pas une nouveauté. On a ri dans les opéras de Mozart ou de Rossini, par exemple. Mais avec Offenbach, ce musicien juif allemand qui devient une figure majeure de l'opéra bouffe français, c'est un rire proche de la folie, un rire que l'on trouve aussi dans les vaudevilles de Feydeau ou de la Biche de la même époque, et que rendent jubilatoires des mises en scène contemporaines totalement déjantées, comme celle par exemple de Laurent Pelli pour les opéras d'Offenbach. C'est l'époque aussi des folies bergères et d'une certaine émancipation de la femme séductrice, peinte notamment par Toulouse-Lautrec.
Alors, on parle d'opéra, mais petite parenthèse, vous avez aussi utilisé le terme d'opérette. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, le mot opérette, employé pour désigner les spectacles d'Offenbach, est un peu dévalorisant. J'ai trouvé une définition qu'en donnait le grand compositeur Camille Saint-Saëns. L'opérette, dit-il avec humour, est, je cite, « une fille de l'opéra comique ayant mal tourné ». Mais les filles qui tournent mal ne sont pas toujours sans agrément.
Pas de commentaire.
Certaines de ces opérettes, comme la Véronique d'André Messager, ont un charme un peu désuet, pas du tout déplaisant. De la même façon sont apparues dès la fin du XIXe siècle les opérettes viennoises de Johann Strauss-Fils ou de Franz Léard, La Veuve Joyeuse par exemple, des comédies légères, un peu sucrées, où l'on danse la valse ou la polka. En France, l'opérette, spectacle lyrique beaucoup plus populaire et plus léger en termes de production et de logistique que l'opéra, connaîtra une grande vogue à Paris, au théâtre du Châtelet par exemple, mais aussi en province. Ainsi, dans les années 1930, les opérettes dites marseillaises, celles de Vincent Scotton en particulier, sont très à la mode. À Limoges, on disait que la saison d'opérette attirait beaucoup les ouvriers de la porcelaine.
Ah oui.
L'opérette européenne s'est aussi exportée outre-Atlantique, où est apparue une petite cousine, si l'on veut, de l'opéra ou de l'opéra bouff que l'on connaît mieux, la comédie musicale.
Des comédies musicales qui ont été jouées et créées également en France.
Oui, mais de retour des États-Unis dans les années 1970. On parle aussi de théâtre musical. On se souvient de R, de Notre-Dame de Paris, de Starmania. Elles ont rapporté des USA à l'influence du jazz, une influence qui s'était d'ailleurs fait sentir dans les années 1920 dans l'opéra de Katsu de Kurt Weill et Bertolt Brecht ou dans la musique de Stravinsky.
Alors ça c'est bien, mais moi j'ai de la suite dans les idées. La semaine dernière, vous n'avez pas répondu à l'une de mes questions qui était « Est-ce que l'on compose encore des opéras aujourd'hui ?»
Je vous avais dit que je le ferais, cher Sébastien.
Je vous attends au tournant.
Et chose promise.
Très bien.
On compose encore des opéras, je vais en parler, mais en réalité, la vigueur réelle de l'opéra aujourd'hui repose encore sur la surexploitation du riche répertoire européen. Et si les salles d'opéra ou les gradins des festivals sont pleins, c'est pour y voir et entendre Carmen, la Traviata, la Flûte enchantée, certes réactualisées souvent par des mises en scène parfois jugées audacieuses. Mmh. Or, pourquoi cette relative absence de contemporains dans les salles d'opéra? Parce qu'on en compose peu, c'est un peu vrai. Les compositeurs d'aujourd'hui sont moins attirés par la grande forme lyrique un peu lourde ou jugée bourgeoise par certains, et le sont plus par les formes audiovisuelles ou éphémères. Pourtant, de nouveaux opéras voient le jour au XXIe siècle. Je citerai Akhmatova de Bruno Mantovani en 2011, Julie du Belge Philippe Boismans en 2005 ou plus récemment encore l'étonnant opéra comique Les Bains Macabres du français Guillaume Connaisson en 2019 et joué pour la première fois en 2020. C'est très récent. Des noms certes beaucoup moins connus et prestigieux que ceux de Verdi ou Mozart, ce qui explique peut-être la frilosité des directeurs de salles qui hésitent à proposer à leur public une modernité qui pourrait l'effrayer, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout certain. Voilà, je suis arrivé au bout de ces 5 chroniques qui, je l'espère, auront donné à nos auditeurs une idée plus précise de ce qu'est et a été l'opéra européen. Il en aurait peut-être mérité d'autres, je n'ai pas évoqué par exemple la qualité et la puissance de l'opéra russe ou d'Europe centrale, et cette Roussalka d'Antonine Dvorak que j'aime beaucoup. Et comme je voudrais dire au revoir à nos auditeurs sur la même note optimiste que celle sur laquelle j'ai ouvert cette chronique, rien de tel qu'un dernier cancan d'Offenbach.
Et voilà pour cette vie parisienne d'Offenbach, pour terminer avec beaucoup d'énergie et de légèreté cette chronique consacrée donc à l'opéra en Europe. Merci beaucoup Jean-Pierre, je me suis fait tatouer 1607 sur l'épaule, donc comme ça je suis sûr de mémoriser la date.
C'est très bien.
Et puis est-ce qu'on a un petit avant-goût de ce qui va nous accompagner sur ces dernières chroniques de l'année pendant cette période de fête?
Alors on a parlé d'opéra bouffe.
Ouais.
Et dans les 3 dernières chroniques nous parlerons de nourriture,
oh,
Sébastien.
Si tout ça n'est pas bien pensé.
De tradition culinaire, de gastronomie européenne.
Ça nous met d'ores et déjà en appétit, mais il faudra revenir pour ça la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine Jean-Pierre.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges-Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.